La hiérarchie morale des fortunes. En tout état de cause, il me semble urgent d'aller au-delà de ce débat souvent caricatural autour du mérite et de la fortune, qui me paraît mal formulé. Personne ne nie l'importance d'avoir dans une société des entrepreneurs, des inventions et des innovations. Et il y en avait bien sûr beaucoup à la belle époque, par exemple dans l'automobile, le cinéma, l'électricité, tout comme aujourd'hui. Simplement, l'argument entrepreneurial ne permet pas de justifier toutes les inégalités patrimoniales, aussi extrêmes soient-elles, sans souci pour les faits. Le problème est que l'inégalité R supérieure à G, doublée de l'inégalité des rendements en fonction de la taille du capital initial, conduit souvent à une concentration excessive et pérenne du patrimoine. Si justifiée soit-elle au départ, les fortunes se multiplient et se perpétuent parfois au-delà de toute limite et de toute justification rationnelle possible en termes d'utilité sociale. Les entrepreneurs tendent ainsi à se transformer en rentiers, non seulement lors du passage des générations, mais également au cours d'une même vie, d'autant plus que les existences individuelles s'allongent sans cesse. Le fait d'avoir eu de bonnes idées à l'âge de 40 ans n'implique pas que l'on en ait encore à l'âge de 90 ans, pas plus bien sûr qu'à la génération suivante. Et pourtant, la fortune est toujours là, parfois multipliée par plus de 10 en 20 ans, comme le montrent les cas de Bill Gates et de Liliane Bettencourt. Il s'agit là de la raison centrale justifiant l'introduction d'un impôt progressif annuel sur les plus grandes fortunes mondiales, seule façon de permettre un contrôle démocratique de ce processus potentiellement explosif, tout en préservant le dynamisme entrepreneurial et l'ouverture économique internationale. Cette idée et ses limites seront étudiées dans la quatrième partie de ce livre. À ce stade, notons simplement que cette approche fiscale permet également de dépasser le débat sans issue sur la hiérarchie morale des fortunes. Toute fortune est à la fois en partie justifiée et potentiellement excessive. Le vol pur et simple n'existe que rarement, de même que le mérite absolu. L'impôt progressif sur le capital a précisément l'avantage de pouvoir traiter ces différentes situations de façon souple, continue et prévisible, tout en produisant de la transparence démocratique et financière sur les patrimoines et leur évolution, ce qui n'est pas rien. Trop souvent, le débat public mondial sur les fortunes se réduit à quelques affirmations péremptoires, et en grande partie arbitraires, sur les mérites comparés de telle ou telle personne. Par exemple, il est assez courant d'opposer actuellement le nouveau leader mondial de la fortune, Carlos Slim, mania mexicain de l'immobilier et des télécoms, issu d'une famille libanaise et souvent décrit dans les pays occidentaux comme devant sa fortune à des rentes de monopole obtenues par l'entremise du gouvernement de son pays, forcément corrompu, et l'ancien leader mondial, Bill Gates, paré de toutes les vertus de l'entrepreneur modèle et méritant. Par moments, on a presque l'impression que c'est Bill Gates en personne qui a inventé l'informatique et le microprocesseur, et qu'il serait encore 10 fois plus riche s'il avait pu recevoir l'intégralité de sa productivité marginale et de son apport personnel au bien-être mondial. Fort heureusement, le bon peuple de la planète a eu droit aux largesses de ses effets externes. Sans doute ce véritable culte s'explique-t-il par ce besoin irrépressible des sociétés démocratiques modernes de donner du sens aux inégalités. Disons-le tout net, je ne connais presque rien à la façon exacte dont Carlos Slim et Bill Gates se sont enrichis, et je suis bien incapable de disserter sur leurs mérites respectifs. Mais il me semble que Bill Gates a lui aussi bénéficié d'une situation de quasi-monopole de fait sur les systèmes d'exploitation, de même d'ailleurs que beaucoup de fortunes bâties dans les nouvelles technologies, des télécoms à Facebook. Par ailleurs, j'imagine que ces contributions se sont appuyées sur les travaux de milliers d'ingénieurs et de chercheurs en électronique et informatique fondamentale, sans qui aucune invention dans ces domaines n'aurait été possible, et qui n'ont pas breveté leurs articles scientifiques. En tout état de cause, il me semble excessif d'opposer de façon aussi extrême ces deux situations individuelles, souvent sans même chercher à examiner précisément les faits. Quant aux milliardaires japonais, Yoshiaka Tsutsumi et Taikichiro Mori, qui ont précédé Bill Gates de 1987 à 1994 à la tête du classement Forbes, on a jugé bon, dans les pays occidentaux, d'aller jusqu'à oublier leur nom. Sans doute considère-t-on qu'ils ne devaient leur fortune qu'à la bulle immobilière et boursière en vigueur alors au pays du soleil levant, ou à de peu reluisants tripatouillages asiatiques. La croissance japonaise des années 1950 aux années 1980 a pourtant été la plus forte de l'histoire, beaucoup plus forte que celle des États-Unis des années 1990-2010, et on peut imaginer que les entrepreneurs y ont parfois joué un rôle utile. Plutôt que de se livrer à des considérations sur la hiérarchie morale de la fortune, qui se résume souvent en pratique à un exercice d'occidentalocentrisme, il me semble plus utile de tenter de comprendre les lois générales qui gouvernent en moyenne les dynamiques patrimoniales, par-delà les considérations de personnes, et d'imaginer des modes de régulation, notamment fiscaux, s'appliquant à tous de la même façon, quelles que soient les nationalités en jeu. En France, lors du rachat en 2006 d'Arcelor, alors deuxième groupe sidérurgique mondial, par le mania de l'acier Lakshmi Mittal, puis de nouveau à l'automne 2012 au sujet des investissements jugés insuffisants sur le site de production de Florange, les médias hexagonaux étaient particulièrement remontés contre le milliardaire indien. En Inde, tout le monde est convaincu que cette hostilité s'explique, au moins en partie, par la couleur de sa peau. Est-on bien sûr que cela ne joue aucun rôle ? Certes, les méthodes de Mittal sont brutales et son train de vie fait scandale. Toute la presse française s'est offusquée notamment des luxueuses maisons londoniennes de Mittal, valant trois fois son investissement à Florange. Mais il est possible que l'on se scandalise moins fortement lorsque ce train de vie concerne un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, ou bien un autre milliardaire bien de chez nous, comme Arnaud Lagardère, jeune héritier pourtant peu connu pour son mérite, sa vertu et son utilité sociale, et à qui l'État français décidait au même moment de verser plus de 1 milliard d'euros pour lui permettre de sortir du capital d'EADS, leader aéronautique mondial. Prenons un dernier exemple, plus extrême encore. En février 2012, la justice française fit saisir plus de 200 mètres cubes de biens, voitures de luxe, tableaux de maître, etc., dans l'hôtel particulier possédé avenue Foch par Théodorin Obiang, fils du dictateur de Guinée équatoriale. Loin de moi l'idée de plaindre l'infortuné milliardaire. Il ne fait aucun doute que sa participation dans la société d'exploitation du bois guinéen, dont il tire apparemment l'essentiel de ses revenus, a été mal acquise et que ses ressources ont été de fait volées aux habitants de Guinée équatoriale. L'affaire est en outre exemplaire et instructive, dans le sens où elle montre que la propriété privée est un peu moins sacrée que ce que l'on dit parfois, et qu'il est techniquement possible, quand on le souhaite, de trouver son chemin dans le dédale complexe des multiples sociétés écrans par lesquelles Théodorin Obiang administrait ses biens et ses participations. Mais il ne fait guère de doute que l'on peut trouver sans difficulté, à Paris ou à Londres, d'autres exemples de fortunes individuelles reposant in fine sur des appropriations privées de ressources naturelles, concernant par exemple des oligarques russes ou qataris. Peut-être ces appropriations privées de pétrole, de gaz ou d'aluminium s'apparentent-elles moins clairement à du vol pur et simple que le bois de Théodorin Obiang. Peut-être aussi est-il plus justifié d'intervenir judiciairement quand le vol a été commis au détriment d'un pays très pauvre que d'un pays un peu moins pauvre. Le classement Forbes introduit un critère intéressant mais difficile à appliquer avec une précision absolue. Il exclut les despotes et plus généralement les personnes tenant leur fortune du fait de leur position politique, comme la reine d'Angleterre. Mais si la fortune a été acquise avant d'arriver au pouvoir, alors la personne reste dans le classement. Par exemple, l'oligarque géorgien Bidzina Ivanishvili figure toujours dans la liste 2013, bien qu'il ait pris la tête du gouvernement fin 2012. Il est crédité d'une fortune de 5 milliards de dollars, soit l'équivalent d'un quart du PIB de son pays, entre 5 et 10% du patrimoine national géorgien. Au moins m'accordera-t-on que ces différents cas relèvent davantage d'un continuum que d'une différence absolue de nature, et que la fortune est souvent jugée plus suspecte quand elle a la peau noire. En tout état de cause, les procédures judiciaires ne peuvent pas régler tous les problèmes de biens mal acquis et de fortunes indues qui existent dans le monde. L'impôt sur le capital permet d'envisager un traitement plus systématique et plus pacifique de la question. De façon générale, le fait central est que le rendement du capital mélange de manière souvent indissociable des éléments relevant d'un véritable travail entrepreneurial, force absolument indispensable au développement économique. D'autres, qui relèvent de la chance à l'état brut, on est là au bon moment pour racheter un actif prometteur à un bon prix, et d'autres, enfin, qui s'apparente à du vol, pur et simple. L'arbitraire des enrichissements patrimoniaux dépasse largement la question de l'héritage. Le capital a par nature des rendements volatiles et imprévisibles, et peut aisément générer pour tout un chacun des plus-values ou des moins-values, immobilières ou boursières, équivalentes à plusieurs dizaines d'années de salaire. Au sommet de la hiérarchie des fortunes, ces effets sont plus extrêmes encore. Il en a toujours été ainsi. Dans Hibiscus, Alexei Tolstoï dépeint en 1926 l'horreur capitaliste. En 1917, à Pétersbourg, le comptable Simon Nevzorov écrase l'armoire sur la figure de l'antiquaire qui lui proposait un emploi et lui vole ainsi une petite fortune. L'antiquaire s'était lui-même enrichi en rachetant à vil prix les biens des aristocrates fuyant la révolution. Quant à Nevzorov, il parvient en 6 mois à multiplier par 10 le capital initial grâce au tripot qu'il monte à Moscou avec son nouvel ami Rytchev. Nevzorov est le parasite vivant, petit, mesquin. Il démontre par sa personne à quel point le capital est le contraire du mérite. L'accumulation du capital commence parfois par le vol, et l'arbitraire de son rendement revient souvent à perpétuer le vol initial. Le rendement pur des dotations universitaires. Afin de mieux comprendre la question de l'inégalité des rendements du capital, tout en dépassant les questions des personnes, il est utile d'examiner le cas des dotations en capital des universités américaines au cours des dernières décennies. Il s'agit en effet de l'un des rares cas où l'on dispose de données très complètes sur les investissements réalisés et les rendements purs obtenus sur une période relativement longue, en fonction de la taille du capital initial. Il existe actuellement plus de 800 universités publiques et privées aux États-Unis gérant des fonds de dotation. Ces fonds vont de quelques dizaines de millions de dollars, comme le North Iowa Community College, classé 785e en 2012 avec une dotation de 11,5 millions de dollars, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les premières universités du classement sont invariablement Harvard, avec au début des années 2010 autour de 30 milliards de dollars, suivi de Yale, près de 20 milliards de dotation, puis de Princeton et Stanford avec plus de 15 milliards. Puis viennent le MIT et Columbia avec un peu moins de 10 milliards, les universités de Chicago et de Pennsylvanie autour de 7 milliards et ainsi de suite. Au total, les quelques 800 universités américaines possèdent au début des années 2010 des actifs de près de 400 milliards de dollars, soit un peu moins de 500 millions de dollars en moyenne par université et une dotation médiane légèrement inférieure à 100 millions. Cela représente certes moins de 1% du total des patrimoines privés possédés par les ménages américains, mais il s'agit tout de même d'une masse importante qui procure chaque année des ressources significatives aux universités américaines, ou tout du moins à certaines d'entre elles. La dotation en capital total des universités américaines représente l'équivalent d'environ 3% du PIB américain, et les revenus produits chaque année sont de l'ordre de 0,2% de PIB, soit à peine 10% des dépenses totales de l'enseignement supérieur aux États-Unis. Mais cette part peut monter jusqu'à 30-40% des ressources dans les universités les mieux dotées. Par ailleurs, ces dotations en capital jouent un rôle dans la gouvernance et l'autonomie des établissements qui dépassent souvent leur poids dans les ressources totales. Surtout, et c'est le point qui nous intéresse le plus ici, les dotations en capital des universités américaines donnent lieu à la publication de comptes financiers fiables et détaillés qui peuvent être utilisés pour étudier année après année les rendements obtenus par les uns et les autres, ce qui n'est pas le cas pour les patrimoines privés. En particulier, ces données ont été rassemblées depuis la fin des années 1970 par l'Association professionnelle des universités américaines et ont donné lieu chaque année depuis 1979 à des publications statistiques importantes de la part de cette association. Les principaux résultats que l'on peut tirer de ces données sont indiqués dans le tableau 12.2. La première conclusion est que le rendement moyen obtenu par les dotations universitaires américaines a été extrêmement élevé au cours des dernières décennies, 8,2% par an en moyenne sur la période 1980-2010, et 7,2% si l'on se restreint à la sous-période 1990-2010. Certes, il eut des hauts et des bas au cours de chacune de ces décennies, après des années de rendement faible, voire négatif, par exemple en 2008-2009, et des années fastes où le rendement universitaire moyen dépassait nettement 10%. Mais le point important est que si l'on fait des moyennes sur 10, 20 ou 30 ans, on constate des rendements extrêmement élevés, du même type d'ailleurs que ceux observés pour les milliardaires du classement Forbes. Précisons que les rendements indiqués dans le tableau 12.2 sont les rendements nets réels effectivement obtenus par les dotations universitaires, après prise en compte des plus-values et après déduction de l'inflation, des impôts en vigueur, presque inexistants s'agissant de fondations d'utilité publique, et de tous les frais de gestion, en particulier après déduction de la masse salariale de toutes les personnes au sein de l'université ou à l'extérieur qui ont mis au point et exécuté la stratégie de placement de la dotation. Il s'agit donc véritablement du rendement pur du capital, au sens où nous l'avons défini dans ce livre, c'est-à-dire ce que rapporte un capital du simple fait de sa détention en dehors de tout travail. La seconde conclusion qui apparaît clairement à la lecture du tableau 12.2 est que le rendement obtenu croît fortement avec la taille de la dotation. Pour les quelques 500 universités sur 850, dont la dotation est inférieure à 100 millions de dollars, le rendement est de 6,2% sur la période 1980-2010 et de 5,1% sur la période 1990-2010, ce qui est déjà assez confortable et sensiblement plus élevé que le rendement moyen obtenu par les patrimoines privés dans leur ensemble au cours de cette période. Il faut toutefois souligner que l'essentiel de l'écart provient du fait que les détenteurs de patrimoine privé doivent généralement acquitter des impôts significatifs. Le rendement moyen réel avant impôts est de l'ordre de 5% par an aux États-Unis sur la période 1980-2010. Le rendement s'élève régulièrement à mesure que l'on monte dans les niveaux de dotation. Pour les 60 universités ayant plus de 1 milliard de dollars de dotation, il atteint 8,8% par an en moyenne sur la période 1980-2010, 7,8% sur la période 1990-2010. Si l'on considère le trio de tête, Harvard, Yale, Princeton, qui n'a pas changé entre 1980 et 2010, le rendement atteint 10,2% sur la période 1980-2010, 10,0% sur la période 1990-2010, soit deux fois plus que les universités les moins bien dotées. Si l'on examine les stratégies de placement des différentes universités, on constate à tous les niveaux de dotation des portefeuilles très bien diversifiés, avec une nette préférence pour les actions américaines et étrangères et les obligations du secteur privé, les obligations publiques, en particulier celles émises par l'État américain, peu rémunératrices, représentent toujours moins de 10% des portefeuilles et sont presque totalement absentes des plus grosses dotations. À mesure que l'on monte dans la hiérarchie des dotations, on observe surtout une très forte progression des stratégies alternatives. C'est-à-dire des placements à très haut rendement tels que les actions non cotées, private equity, et en particulier les actions non cotées étrangères, qui demandent une forte expertise, les fonds spéculatifs, hedge funds, les produits dérivés, et les placements immobiliers et en matières premières, énergie, ressources naturelles, divers produits dérivés autour des matières premières. Il s'agit là encore de placements exigeant une expertise très spécifique et potentiellement très rentable. Si l'on examine l'importance prise par l'ensemble de ces placements alternatifs, dont le seul point commun est de sortir du cadre des placements financiers classiques, actions, obligations, accessibles à tout un chacun, alors on constate qu'ils représentent à peine plus de 10% des portefeuilles pour les dotations inférieures à 50 millions d'euros, puis atteignent rapidement 25% entre 50 et 100 millions d'euros, 35% entre 100 et 500 millions d'euros, 45% entre 500 millions et 1 milliard, pour finalement culminer à plus de 60% des portefeuilles pour les dotations supérieures à 1 milliard d'euros. Les données disponibles, qui ont le mérite d'être publiques et extrêmement détaillées, permettent de constater sans aucune ambiguïté que ce sont ces placements alternatifs qui permettent aux très grosses dotations d'obtenir des rendements réels qui frisent les 10% par an, alors que les plus petites dotations doivent se contenter de 5%. Il est intéressant de constater que la volatilité des rendements d'une année sur l'autre ne semble pas significativement plus élevée pour les dotations les plus fortes. Le rendement moyen obtenu par Harvard ou Yale varie autour de sa moyenne, mais pas démesurément plus que celui des dotations plus petites. Et dès lors que l'on fait des moyennes sur quelques années, le premier est systématiquement plus élevé que le second, avec un écart approximativement constant dans le temps. Autrement dit, le rendement plus élevé obtenu par les plus grosses dotations n'est pas dû principalement à une plus forte prise de risque, mais plutôt à une stratégie de placement plus sophistiquée permettant d'accéder à des portefeuilles structurellement et durablement plus rentables. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait qu'il existe relativement peu de retournements de fortune au cours de cette période de 30 années, 1980-2010. Pour l'essentiel, la hiérarchie des dotations universitaires reste la même.